BFM Radio. BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Affaire suivante numéro 282, soyez les bienvenus au sommaire de ce dimanche. Une enquête ouverte 35 ans après les faits. Le pôle de Nanterre a peut-être trouvé une nouvelle victime de François Vérove, alias le Grêlé. Les juges s'intéressent à un homme abattu, retrouvé ligoté à un arbre. C'était en juin 90. Pourquoi François Vérove pourrait-il être son meurtrier? On va tout vous expliquer dans un instant.
Et puis c'est peut-être la fin d'un cold case vieux de 25 ans. Un homme a été mis en examen jeudi pour le meurtre de Ginette Nem. Cette femme avait été retrouvée égorgée sur un sentier du Var à Olioul. C'était en 2000. Comment les enquêteurs sont-ils remontés jusqu'à cet homme si longtemps après? Eh bien, l'avocat de Ginette Nem nous le dira. Il sera notre invité tout à l'heure.
Et puis les procès d'assises sont toujours un moment d'une rare intensité. Tout peut s'y produire, des témoins qui craquent, des criminels qui avouent, des familles qui explosent. Le chroniqueur judiciaire Stéphane Durand-Soufflant en revient sur 25 ans de procès d'assises. C'est au cœur de son dernier livre, Service après crime. Il sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission.
Et affaire suivante, c'est tout de suite, vous restez avec nous.
BFM TV, affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet.
Combien de victimes a réellement fait François Vérove, alias le Grêlé? Pendant des décennies, cet homme a multiplié les crimes les plus barbares en jouant de son statut de gendarme, puis de policier. BFM TV vous dévoilait cette semaine qu'une nouvelle affaire pourrait s'ajouter à la longue liste des crimes du Grêlé. Une enquête que le pôle de Nanterre a décidé de rouvrir pour la relier ou non à François Vérove. Une affaire qui remonte à 35 ans et la découverte d'un homme abattu dans une forêt près d'Évry. Élisa Tralin.
C'est un petit bois communal, bien connu des voyous et des exhibitionnistes. Mais un cadavre attaché à un arbre, jamais promeneur n'en avait encore fait la découverte à Saint-Aubin. Le 6 juin 1990, les gendarmes alertés retrouvent le corps d'un quadragénaire tué d'une balle derrière la tête. La munition les intrigue. Elle provient d'un pistolet automatique Mac 50, l'arme utilisée à l'époque par la gendarmerie. Dès le lendemain, le chéquier de la victime est utilisé à plusieurs reprises autour de Paris pour l'achat d'une moto et d'un magnétoscope notamment. Aux enquêteurs, le vendeur d'appareils électroniques raconte que le client lui a présenté une carte tricolore propre aux forces de l'ordre. Malgré ces indices, le crime n'est pas élucidé. Jusqu'en 2021 et l'identification d'un tueur en série, François Vérove, surnommé le Grêlé. Un gendarme à la retraite relève alors des similitudes entre le profil du criminel et cette enquête vieille de 35 ans. Grâce à son témoignage, une information judiciaire est rouverte en novembre dernier par le pôle Cold Case. Des expertises graphologiques pourront être réalisées sur les chèques volés pour déterminer s'il s'agit bien de l'écriture du Grêlé.
Alors le Grêlé a-t-il fait une victime supplémentaire désormais identifiée? On va essayer de comprendre comment les enquêteurs sont remontés à cette piste avec nos invités. Stéphane Selamy, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter police justice à Paris Match, co-auteur notamment de la traque du Grêlé chez Robert Laffont. Vous connaissez parfaitement l'histoire de ce tueur en série. Et puis Jean-Alphonse Richard, qu'on est toujours très heureux de retrouver.
Aussi.
Bonjour Jean-Alphonse, bonjour. Journaliste, présentateur de l'heure du crime sur RTL. D'abord, commençons par la scène de crime, par cette affaire, avant de voir les liens qui peuvent permet de relier cette affaire au Grêlé. 6 juin 90, un homme abattu. Scène de crime un peu particulière.
Oui, parce qu'encore une fois, mais on l'a retrouvé dans plusieurs affaires du Grêlé, on a un homme qui a été tué d'une balle en pleine tête, qui est attaché à un arbre, qui a été abandonné à son triste sort à cet endroit. Et puis, on n'a pas beaucoup d'éléments au départ. Et d'ailleurs, cette affaire va passer complètement sous les radars. Puisque en travaillant sur ce dossier, on s'est rendu compte qu'il n'y avait eu aucun élément qui avait fuité dans la presse à l'époque. Donc c'est vrai que c'est un mystère en fait au départ sur cette affaire.
Est-ce que ça tient aussi au lieu, le bois de Saint-Aubin? C'est un bois qui est connu pour réunir un public peut-être un peu particulier.
Oui, effectivement, c'est un endroit qui est décrit comme un lieu de rencontre pour des gens qui effectivement ont envie de s'adonner à quelques pratiques. Alors est-ce que ça tient à ça? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous on s'est rendu sur place hein, puisque quand on a travaillé sur cette affaire, cette nouvelle affaire qui est liée au Grélé, on a rencontré des habitants, on a rencontré des anciens élus, et personne n'était au courant de cette affaire. En tout cas, personne ne se souvenait de cette affaire. On a même essayé de retrouver le maire de l'époque, et en fait, on s'est rendu compte que ce monsieur avait refait sa vie aux États-Unis et était décédé le 28 décembre dernier. Donc, on n'a pas pu remonter jusqu'à lui, mais en tout cas, personne sur place ne se souvenait de cette affaire, de ce meurtre, et de cet homme retrouvé attaché à cet arbre.
Cet homme, Gilbert, pourquoi personne ne s'en préoccupe? Il a une épouse.
Bien sûr, c'est pareil là aussi. On a réussi à remonter jusqu'à son épouse. On est allé la rencontrer. Elle veut absolument pas s'exprimer. Elle nous a même confié qu'à l'époque, elle avait expliqué à ses proches que son mari, donc Gilbert, était décédé dans un accident. C'est vous dire à quel point elle a voulu vraiment passer sous silence cette affaire et cet assassinat de son mari. Donc personne n'était au courant, à part de rares voisins qu'on a pu retrouver et qui avaient entendu parler d'une histoire un peu étrange autour de la disparition de Gilbert, mais pas plus.
Comment va-t-on, le pôle de Nanterre va-t-il se réintéresser à cette affaire?
Alors c'est très intéressant puisqu'en fait on comprend aujourd'hui que c'est un gendarme à la retraite qui travaillait à l'époque à la section de recherche de Paris, qui était en charge de cet assassinat, qui va alerter en fait le pôle Colquais et notamment et surtout Nathalie Turquet, la juge d'instruction qui est en charge des affaires liées au Grélé, et qui va l'alerter donc au début de l'année 2024 en lui disant écoutez, moi j'ai travaillé sur une affaire un peu étrange, en tout cas non élucidée, qu'on n'a jamais réussi à sortir. C'est cette affaire de Saint-Aubin du mois de juin 90 et je pense qu'il peut y avoir un lien avec le Grélé, son comportement et son mode opératoire.
C'est là où, Jean-Alphonse, il y a plein de fils qu'il faut tirer. D'abord, l'arme qui a été utilisée à ce moment-là pour abattre cet homme Gilbert, c'est un Mac 50. Vous êtes le plus spécialiste des armes que moi. Expliquez-nous pourquoi ça nous ramène au Grélé.
Parce que c'est une arme qui est utilisée dans la gendarmerie, tout simplement. Donc ça, effectivement, c'est très important. C'est pas une arme qu'on retrouve comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas une arme classique en matière de banditisme. Le Mac 50, c'est une arme un peu particulière. C'est une arme administrative, comment dire. Enfin, je pense que Dominique Rizet...
Mac, c'est manufacture d'armes de Châtellerault. Exactement. Et c'est l'arme des gendarmes. C'est un 9 mm, puis c'est l'automatique.
Donc ça a été important. Donc ça fait le lien effectivement éventuel avec le Grélé, parce que le Grélé, il y a quelque chose qu'il faut tout de suite souligner, c'est qu'il est extrêmement déroutant. Stéphane Sélarmi en parle dans votre livre. Il est extrêmement déroutant dans son mode opératoire, parce qu'à la fois on le voit, il a pu utiliser une arme. Il a utilisé le garrot espagnol, c'est-à-dire une manière très particulière d'étrangler les personnes avec des nœuds très particuliers. Et puis on le retrouve aussi étrangler des petites filles avec des liens. Et il est soupçonné aujourd'hui. Hein. Il y a plusieurs dossiers dans les qui ne sont pas sortis encore et qui sont à l'étude aujourd'hui au pôle des cold case, où on s'aperçoit qu'il a sans doute, peut-être, en tout cas, il est soupçonné d'avoir donné la mort à deux petites filles en 1987. Donc on est en pleine période d'activité du Grélé. Donc voilà, donc... On a ce fil conducteur du mode opératoire qui est très compliqué avec le Grélé. Ça, il faut le dire. C'est pour ça aussi que les enquêtes ont pris du retard et ont tardé jusqu'à ce que le pôle des cold case reprenne tout ça. Et ils sont en train, effectivement, de pointer toutes ces modes opératoires.
Un élément très important par rapport à ce que vient de dire Jean-Alphonse Richard, c'est aussi cette arme donc particulière, oui. Et vous l'avez rappelé aussi, Dominique Rizet, ce Mac 50 en dotation dans la gendarmerie. Il faut savoir que lorsque le Grélé est identifié, donc François Vérov, on est en septembre 2021 par la juge Turquet, et qu'il va se suicider donc en prenant des médicaments antidouleurs, chez lui, en perquisition donc dans le sud, va être retrouvé un Mac 50. Très clairement, dans ses affaires, donc une arme qu'il a eue en dotation lorsqu'il était lui-même employé dans la garde républicaine et qu'il n'avait pas restituée, qu'il avait gardée. Et donc, pour moi aujourd'hui et pour nous, des analyses et des comparaisons au niveau de la balistique vont être opérées entre la douille qui a été retrouvée sur la scène de meurtre donc de Gilbert à Saint-Aubin en 90 et cette arme retrouvée au domicile du Grélé.
Et ce qui va intriguer ce fameux gendarme dont parlait Stéphane Sélarmi à l'instant, qui s'appelle Claude Félix, qui était un major de la section de recherche de Paris, grade de major, c'est un, l'arme, Mac 50, la munition 9 mm, c'est deux, la façon dont cet homme est attaché dans le bois de Saint-Aubin, qui ressemble, vous le disiez tout à l'heure, à la façon dont était attachée une des victimes à Paris, et puis les fillettes qu'on a retrouvées. Thierry Lévesque, notre confrère journaliste, vient de sortir un livre sur ces quatre fillettes, très intéressant.
Il y a deux cas qui sont très intéressants.
Très intéressant. Ensuite, il y a le chéquier qui est volé à cet homme qu'on retrouve dans la forêt de Saint-Aubin, et immédiatement, celui qui l'a tué prend ce chéquier et va faire des chèques, plusieurs, dont deux qui sont intéressants, et les gendarmes vont retrouver ceux auxquels il a fait ses chèques. Il achète une moto à quelqu'un qui vendait sa moto d'occasion, et il a laissé entrevoir dans son portefeuille une carte tricolore, une carte de gendarme, pour le rassurer, genre, je te fais un chèque, mais regarde, je suis gendarme. Et c'était un chèque, évidemment, volé. Et il a aussi acheté un magnétoscope. De la même façon, le vendeur du magnétoscope va être retrouvé par les gendarmes de l'SR de Paris. Et il va leur dire, moi, oui, il m'a fait un chèque, mais bon, il avait une carte tricolore de gendarme. Donc, ce qui va intriguer les gendarmes, ce qui fera qu'un jour, le major Félix, vous l'avez dit, va appeler la juge turquoise en disant, on a des éléments qui ressemblent au grêlé dans le meurtre de Saint-Aubin.
Il y a plein d'éléments intéressants dans ce que dit Dominique là. D'abord, la carte de gendarme ou de policier, le grêlé à plusieurs reprises dans les meurtres qu'il va commettre, ou les agressions qu'il va commettre, joue de sa carte.
Une carte tamponnée, même, disent les victimes qui ont pu le remarquer. Et puis, c'est très important aussi, il y a cette habitude de voler. Ça, c'est une constante aussi chez le grêlé. Il a volé des chéquiers. Le premier viol qu'il fait en 86, 87, sur des gamins qui sont là. Il y a une fête adolescente dans une maison, etc. Il intervient. Il va partir avec la voiture du papa et avec également son portefeuille. Lorsqu'il y a l'affaire Virginie Delmas, une des quatre disparues, une quatre filles tuées dans la couronne parisienne, c'était le 9 mai 87. Il y a des témoins qui vont dire ils ont vu un homme qui ressemble vraiment étrangement au grêlé, sur une moto. On va s'apercevoir que cette moto, elle a été payée également avec des chèques volés, elle a été volée. Donc voilà, il y a ce fil conducteur aussi, il y a à la fois les modes opérateurs qui sont compliqués à suivre, parce qu'il peut s'attaquer à des adultes comme à des enfants, donc ça c'est quand même relativement rare en matière criminelle, et ensuite il y a le vol.
Et c'est ces centres d'intérêt qui ressortent à travers cela. C'est un motard, il aime les motos.
Ah oui, exactement. On le sait puisqu'il a été motard dans la police après donc être passé par la garde républicaine donc entre 85 et 88.
Compagnie et de ensuite, Nanterre. Il était dans les Hauts-de-Seine.
Ouais, et ensuite exactement, il a été affecté donc à la brigade motocycliste du côté de Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Donc oui. Pour rappeler et pour revenir sur ce que on vient de dire, il y a d'autres objets, et notamment un magnétoscope, puisqu'on sait qu'il va acheter un magnétoscope avec un des chèques volés, donc à Gilbert, sa victime de Saint-Aubin. Mais dans une autre affaire, on sait, et qui colle vraiment au grêlé, on sait que lors d'un cambriolage, il va voler un magnétoscope, il va voler différents matériels. Et dans l'affaire polysimulaire, puisque le double meurtre de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, donc en 1987, il vole des objets, il vole aussi des appareils photos qui sont dans cet appartement. Donc on voit qu'effectivement, il a cette habitude de s'emparer de choses.
C'est un tic, une espèce de tic, parce qu'il n'en a pas vraiment besoin, mais c'est un tic.
Qu'est-ce qu'il en fait ? Il y a quand même une question, c'est qu'en 92, quand il vit à Châtenay-Malabry avec sa femme, sa belle-sœur vient les visiter, elle se retrouve un jour chez eux toute seule, parce qu'ils sont partis faire des activités, elle va vouloir utiliser le magnétoscope, elle découvre dans le magnétoscope une cassette avec des scènes pornographiques, des films pornographiques. Donc peut-être qu'il utilisait ses magnétoscopes pour cela aussi.
On peut se poser la question aussi de savoir s'il n'allait pas les revendre aussi pour pouvoir en tirer profit et ensuite avoir de l'argent, puisqu'à l'époque, faut voir que ce sont des produits quand même qui ne sont pas accessibles forcément facilement, en tout cas qui ont un certain prix.
Il y a un point important, il a fait deux chèques, il les a signés, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y ait une étude graphologique qui soit faite.
Ah ben certainement, oui, je pense que là tout est étudié. Au pôle judiciaire là des cold cases, on laisse absolument rien passer sur cette affaire. Les juges le travaillent à bloc. Vraiment le dossier du grêlé, il est très important parce qu'on s'aperçoit au fil des jours, des semaines et des mois que le nombre des victimes, on le connaît vraiment pas aujourd'hui. C'est un peu compliqué.
Et parce que pour compléter ta question, Philippe, ces chèques existent encore.
Eh oui.
Ils sont dans Stéphane, ils sont dans la procédure.
Ils sont dans la procédure, effectivement. Donc, il y a une possibilité d'analyser, faire des comparaisons de l'écriture entre celui qui a signé ses chèques, qui les a remplis, et l'écriture du grêlé, puisqu'ils l'ont.
Alors ça, c'est de la graphologie. C'est pas une science certaine, mais c'est quand même une approximation, mais très intéressante. Ensuite, il y a la balle dont vous avez parlé. Je ne sais pas si c'est la douille ou le projectile de la balle.
Ouais.
Donc, qui pourrait être comparé
à l'arme qui a été retrouvée donc, au domicile du grêlé.
Ça fait deux éléments pour peut-être l'identifier. Troisièmement, il y a de l'ADN qui est retrouvé sans doute sur la scène à Saint-Aubin, la mort de Gilbert, puisque On a retrouvé un gant, c'est ça? Un gant, bon, les cordes qui ont servi à attacher. Donc, si on a gardé ces éléments, c'est intéressant.
Il va falloir les exploiter à nouveau, effectivement, et faire de nouvelles recherches sur l'ADN qui pourrait être resté sur ces éléments.
Ouais. C'est fascinant, cette affaire sur le parcours du grêlé. C'est aussi fascinant sur le travail du pôle de Nanterre, parce que là, en vous écoutant et en décortiquant tous les points et la manière dont travaille le pôle Colquès, c'est véritablement ce qui fait sa force.
Là, ils ont fait un gros travail hein, sur le grêlé. Il y a beaucoup d'études qui sont faites. Il y a des gros moyens qui sont déployés. Et effectivement, tous les cas qu'on rapporte au pôle Colquès, parce que les cas sont en train de remonter là, il y a des témoignages qui étaient ignorés qui sont en train de remonter. Tout est vraiment étudié de très près. Ça, c'est intéressant. On est loin d'avoir l'épilogue de cette histoire.
Dans notre livre, en fait, quand il a été publié en mars 2022, on disait qu'il y avait une trentaine de faits qui étaient étudiés par Nathalie Turquet, dont 9 homicides. Et on n'avait pas encore l'homicide de Saint-Aubin. Vous voyez un peu, j'allais dire, l'étendue des faits qu'on pourrait attribuer au grêlé.
Et sur le travail du pôle Colquès, eh bien le pôle s'est fendu d'une petite déclaration, parce qu'un communiqué de presse, et dedans je vous lis 5 lignes. Hein. Depuis la création du pôle crime sériel, ou non élucidé le 1er mars 2022, sur 431 procédures signalées au parquet du pôle, 116 ont fondé une saisine du parquet, du pôle, dont 13 concernant des parcours criminels, 97 procédures sont diligentées par des juges d'instruction, 19 procédures sont des enquêtes préliminaires suivies par le parquet. Et enfin, l'une de ces personnes mises en examen avant la saisine du pôle, Monique Olivier, a été condamnée par la cour d'assises des Hauts-de-Seine, etc., etc. Donc, sacré boulot de ce pôle qui a été créé par Éric Dupond-Moretti, hein, avec Jacques Dallès, ancien procureur.
Et on va parler
soit souvent dans
le pôle de Nanterre dans un instant. Merci beaucoup à vous deux. Merci. C'était passionnant de se plonger dans ce parcours du grêlé, cette nouvelle affaire ouverte 35 ans après. Merci beaucoup. À très vite sur le plateau d'Affaires Suivantes. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant et on va continuer à parler du travail du pôle de Nanterre, puisqu'un cold case vient peut-être d'être élucidé 25 ans après grâce au travail de ses juges. Cette semaine, en effet, un homme de 61 ans a été mis en examen pour le meurtre de Ginette Nem. Cette femme avait été retrouvée lardée de coups de couteau en avril 2000 sur un chemin forestier du Var. Comment est-on remonté à son suspect? L'avocat de la famille de Ginette Nem sera notre invité dans un instant. A tout de suite.
BFM Radio.
Et voici un cold case qui n'en est peut-être plus un depuis jeudi. Un homme de 61 ans a en effet été mis en examen pour le meurtre de Ginette Nem, une jeune femme de 46 ans retrouvée par des promeneurs lardée de coups de couteau sur un sentier du Var. C'était en avril 2000. Depuis 25 ans, ce meurtre restait un mystère, mais les juges du pôle des affaires non élucidées de Nanterre ont peut-être réussi à résoudre cette enquête. Comment sont-elles remontées à cet homme? Quelles étaient ses motivations? Toutes les réponses dans un instant avec l'avocat de la famille de Ginette Nem. Mais d'abord, retour sur ce 13 avril 2000 avec Elisa Trana.
Le corps de cette auxiliaire de vie sans histoire a été retrouvé immédiatement après qu'elle a été poignardée, au milieu de ce sentier varois sur les hauteurs d'Olioul. Des témoins ont vu un homme s'enfuir au volant de la voiture de la victime. Le scénario des minutes qui ont précédé le meurtre a été retracé rapidement. Ginette Nem, 46 ans, a été prise au piège dans sa propre voiture à la Seyne-sur-Mer, devant le centre d'action sociale.
Un employé a entendu une femme crier et depuis sa fenêtre, il a vu une femme à bord d'un véhicule, côté passager avant, frapper à la fenêtre. Puis la voiture est partie en direction de la rue du Docteur Roux. Vers 14h50, la victime a effectué 2 retraits consécutifs au niveau d'un distributeur automatique de billets.
Était-ce un crime crapuleux? Pendant 25 ans, les enquêteurs n'ont aucune réponse à apporter aux enfants de Ginette Nem. En 2022, le pôle crime sériel ou non élucidé relance les investigations et décide de réentendre les témoins. Devant une série de photos de potentiels coupables, l'employé du centre d'action sociale parvient à identifier le suspect. Un ancien toxicomane de 61 ans, déjà connu des services de police, est finalement interpellé mardi à Toulon. Son ADN a été retrouvé sous un ongle de Ginette Nem et sur le volant de sa voiture. En garde à vue, il est passé aux aveux. Aujourd'hui, en détention provisoire, il a été mis en examen pour extorsion avec arme et meurtre.
cette affaire a-t-elle été résolue? Encore beaucoup de questions et beaucoup de réponses qu'on attend. On va essayer d'en avoir quelques-unes avec nos invités. Maître Bertrand Pain, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté votre invitation. Vous êtes l'avocat de la famille de Ginette Nem. Merci d'être venu après cette semaine ô combien chargée. À vos côtés, le général François Daoust. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, professeur de sciences criminelles à l'Université de Cergy-Pontoise. Et Boris Karlamov.
Bonjour.
Bonjour Boris. Merci d'être avec nous. Journaliste police-justice à BFM TV. Vous avez suivi ce dossier depuis le début. Merci d'être là. D'abord, Maître, on va reprendre évidemment tous les rebondissements de la semaine avec beaucoup de charge émotionnelle pour la famille de Ginette. On va essayer de comprendre comment le pôle Colcaïs est remonté à cet individu. D'abord, dites-nous un mot peut-être de Ginette Nem. On parle beaucoup d'elle, mais quelle était sa vie en 2000 quand ce drame arrive?
Alors, Ginette Nem, à l'époque, est auxiliaire de vie au CCAS de la ville de La Seyne-sur-Mer. Maman de trois enfants. Sa maman est en vie à l'époque. Elle a deux sœurs. Sa maman est décédée depuis. Et c'est une dame qui ne fait pas parler d'elle, ou alors quand bien, surtout dans le milieu professionnel. Elle a une vie personnelle qui comme une personne lambda. C'est une personne qui vit normalement et qui s'occupe de ses enfants.
Une femme qui est dans la générosité, de par son métier aussi, ce fameux centre d'action sociale, c'est d'ailleurs là que tout va se passer, Boris, la sortie de ce... Elle sort du centre d'action sociale, et puis c'est là qu'elle va être enlevée. Et il va y avoir cette scène terrible, on la voit dans une voiture, appelée au secours, tapée contre la vitre. Cette scène, elle est terrible.
Oui, une scène d'une rare violence. Alors, c'est que les faits, ils se sont déroulés il y a déjà 25 ans. Le 13 avril 2000, on est dans le département du Var, sur la commune de Lioul, et sur un chemin du massif de ce massif du Gros Cerveau, eh bien, il y a deux promeneurs qui font la macabre découverte et qui découvrent donc le corps de Ginette Nem. Elle a été poignardée à plusieurs reprises. Une scène d'une rare violence. Et il y a même des témoins qui ont indiqué, eh bien, à la police avoir vu une personne s'enfuir donc en voiture sans qu'elle ne puisse être retrouvée. 25 ans d'attente, 25 ans d'espoir. Et puis cette semaine, la juge d'instruction donc du Paul Colcaïs, qui a donc passé un coup de fil à la famille de Ginette Nem, qui a donc annoncé qu'il y avait un suspect en garde à vue, interpellé mardi matin aux alentours de 7h45 à Toulon. 48 heures de garde à vue pour cet homme âgé de 61 ans avant d'être déféré au Paul Colcaïs de Nanterre et d'être mis en examen.
Ce qui nous surprend quand même dans cette affaire, c'est qu'on a énormément d'éléments dès le départ. Plusieurs témoins, plusieurs promeneurs ont vu un type suspect qui se cachait dans les buissons tout près de l'endroit où on va retrouver le corps de Ginette Nem, première chose. Deuxième chose, le parcours du suspect va être retracé. On part du lieu de découverte du corps de Madame Nem et on va remonter. Donc, l'employé d'un centre commercial a vu cette scène, une voiture dans laquelle Madame Nem tapait à la vitre, il y avait quelqu'un d'autre à côté d'elle. On a des images de retrait, ou en tout cas on sait qu'elle a effectué deux retraits dans une banque et qu'il y avait derrière elle un homme. Donc on a quand même énormément de choses. On a son corps qui est retrouvé, ce qui permet quand même de travailler et d'avoir des éléments. Sa voiture qui est retrouvée quelques jours après sur un parking, on sait que l'auteur du meurtre ou le suspect est parti avec cette voiture. Et malgré ça, rien. Comment c'est possible?
Ah, nous sommes en 2000, et même l'ADN qui a été recueilli dans le véhicule, eh bien, en 2000, je vous rappelle que c'est les débuts du fichier national automatisé qui ne conserve que les traces de crimes et de crimes sexuels. Il n'y a pas les petits délits, il n'y a pas les petites affaires, donc il n'y a pas de mémoire. S'il a déjà été connu, eh bien, on n'a pas son ADN.
En général, il y a quand même plein de choses, quand même. Il y a un porteur robot, sans doute. Il y a plein de personnes qui l'ont vu. Enfin,
mais il faut le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est arriver lors de l'enquête à avoir un élément qui puisse se raccrocher à quelqu'un. Après, dans l'enquête elle-même, il y a ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire qu'on va sur une piste, on y est à fond, et on ne voit pas tout ce qu'il y a forcément autour. C'est pour ça que le pôle des crimes sériels et non élucidés, eh bien, donne à de nouveaux enquêteurs de façon à avoir une relecture complète du dossier. Il y a eu un réappel aussi à témoins de façon à susciter le témoignage de nouveau et l'écouter d'une manière beaucoup plus optimale maintenant, avec des techniques de psychologie, de façon à ce que ça soit le plus fin possible, et on y arrive.
On va revenir à mardi, évidemment, ce coup de téléphone. Vous allez nous en parler juste avant un point, puisqu'on retrace cette affaire. Il y a cette scène de la voiture, il y a ces deux retraits bancaires, et puis il y a la découverte du corps, Boris le disait. Elle est dure, cette scène de crime. Il y a eu un acharnement sur Ginette Nem.
Les promeneurs qui ont fait cette macabre découverte, enfin, ils partent tranquillement un après-midi se balader, et puis... on voit un corps qui dont les jambes dépassent d'un buisson, c'est terrible, c'est terrible. Et vous avez à ce moment-là, ce qui est surprenant, ce que vous disiez, Monsieur Rizet, c'est que vous avez des témoins qui sont pas très loin, oui. les deux hommes, et lorsqu'ils sont auditionnés, ils vont vous dire, je peux pas vous le décrire parfaitement, alors qu'on est à la même distance que vous et moi, oui. Quasiment. Et c'est ça. Alors à ce stade aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui a permis et quels sont les témoins qui ont permis de remonter le fil, mais il est surprenant que des témoins qui soient si près, alors on sait que parfois, on en parlait tout à l'heure hors antenne, que vous avez des témoins qui ne sont pas marqués alors qu'ils ont eu précisément, et on est dans ce cadre-là. Après, comme vous le disiez, aujourd'hui, ça nous paraît ahurissant, oui. Que de retirer de l'argent à un distributeur à billets et qu'il n'y ait pas de vidéo, il n'y en avait pas à l'époque. Alors on avait simplement celui qui a retiré avant ou celle qui a retiré après par le biais de la carte bancaire, mais on n'a pas les images. Aujourd'hui, ça paraît...
Comment ça s'est passé mardi ?
Mardi matin, enfin mardi en fin de journée, je reçois un appel du parquet de Nanterre. Je me doute parce que j'ai été en lien avec le parquet de Nanterre il y a quelques semaines lorsqu'on m'a fait état de la dernière fois que je l'ai vu, c'était au sujet de l'appel à témoins dans la presse locale. On se doute qu'il y a un rebondissement. Je suis informé que quelqu'un est dans les locaux du commissariat de Toulon. Ce n'est pas moi qui ai avisé immédiatement la famille. Le parquet de Nanterre l'avait fait. Je les ai au téléphone le lendemain matin. C'est un mélange de sentiments. Vous avez d'abord un sentiment de stupéfaction. Je pense que la famille n'y croit pas. Vous avez du soulagement, de la joie aussi de se dire peut-être on va enfin pouvoir avoir quelqu'un, mettre un visage. C'est plus Monsieur X. Et là, on est dans la troisième phase, j'ai envie de vous dire, c'est le contre-coup. Ça replonge les membres de la famille de Madame Nem dans cette douleur. On l'oublie jamais, mais on la met un peu de côté. Et là, on se dit, ben, on va devoir y retourner parce que maintenant il faut affronter le processus judiciaire d'une instruction, d'un procès dans une cour d'assises. Et voilà, Boris, on est un peu dans cette troisième phase aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on sait de cet homme ? Qu'est-ce qu'on a comme élément sur la manière dont le Paul Golcase est remonté jusqu'à lui et sur son profil?
Alors, le Paul Golcase de Nanterre est remonté jusqu'à lui grâce à une nouvelle audition de témoins qui s'est déroulée ces tout derniers mois. Et à ces témoins, eh bien, on leur a présenté des planches de photographies, de profils, de personnes qui pouvaient correspondre donc au profil du suspect. Et lors de ces auditions, eh bien, il y a un ou plusieurs témoins qui ont reconnu la même personne sur ces planches photographiques. Donc, ces planches, il y a plusieurs suspects, 4, 5, 6. Et puis là, il y a au moins deux témoins qui ont dit « c'est cette personne-là, je m'en souviens, c'est sans doute lui le suspect du meurtre de Madame Nem aujourd'hui ». C'est grâce à cette reprise minutieuse des investigations par le Paul Golcase qui a permis donc de rétablir et d'avoir un suspect aujourd'hui. Alors cet homme aujourd'hui, nous on a travaillé dessus avec l'ensemble du service pour la justice et de BFM TV, nos collègues de BFM Toulon VAR. C'est un homme de 61 ans, c'est un ancien toxicomane qui a une compagne, il est intérimaire, il a une profession, il avait pour habitude de travailler sur plusieurs marchés toulonnais ces dernières années, et il est inséré socialement. On n'a que très peu d'informations sur son état psychiatrique. Quoi qu'il en soit, il est rapidement passé aux aveux lors de sa garde à vue. Dès les premières heures, on n'a même pas attendu la prolongation de la garde à vue pour qu'il passe aux aveux. Il est rapidement passé à table, et selon nos informations, eh bien, cet individu s'est dit soulagé d'être passé aux aveux. Alors quand on interroge nos différents interlocuteurs et qu'on leur demande mais pourquoi est-ce que cette personne ne s'est pas dénoncée dernièrement, pourquoi est-ce qu'il a attendu qu'on l'interpelle pour passer aux aveux, là il n'y a aucune explication, et aussi aucune explication, maître, on en parlait tout à l'heure sur les motivations. Alors il y a forcément l'appât du gain, ça a été l'une des premières pistes des enquêteurs, mais de là à commettre l'irréparable, il y a un crime aussi sordide.
Maître, il n'y a pas de problème de prescription? La prescription en matière criminelle était de 10 ans, elle est passée à 20 ans, mais je crois que c'est en 2017, oui. Donc là les faits remontent à 2000. Là, il y a eu des actes de procédure.
Oui, bien évidemment, des magistrats instructeurs, enfin des policiers, puis des magistrats instructeurs ont été, ont œuvré sur ce dossier. Donc non, pas de problème de prescription. la procédure va pouvoir se dérouler normalement.
Général Boris nous expliquait qu'on a donc fait des planches contact avec des photos qu'on a soumises aux témoins de l'époque. Ça veut dire que le pôle Cold Case avait recensé des personnes et avait identifié quand même des suspects au préalable.
Tout à fait. C'est très certainement une même population qui avait déjà été présentée aux témoins de l'époque. Mais comme on disait, on en parlait tout à l'heure, eh bien, les témoignages à chaud, suivant comment les questions sont posées, eh bien, restent bloqués. Je vous rappelle l'affaire Guy Georges, où une victime qui réussit, après le viol, à s'échapper, qui n'a pas été tuée, alors qu'elle a subi l'agression de Guy Georges, elle ne le reconnaît pas. Elle ne le reconnaît pas.
Le portrait robot dans l'affaire Guy Georges ne correspondait pas au visage de Guy Georges.
Tout à fait.
Mais mon général, à décharge, dans une autre affaire, l'affaire Thierry Paulin, un commissaire de police marche dans les rues de Paris, croise Thierry Paulin avec ses cheveux, la Carl Lewis teint en blond, qui sont exactement ceux du portrait robot, à tel point qu'il va lui dire « Monsieur, vous pouvez me suivre, s'il vous plaît ?»
C'est un policier.
C'est un policier, jusqu'au commissariat.
C'est un policier.
Et c'est comme ça que l'affaire va sortir.
La réaction n'est pas la même.
C'est important ce que vous dites là. La semaine dernière, sur ce plateau, on parlait de l'affaire Anaïs Marcelli avec l'avocat de la famille Marcelli, et le Paul Cold Case, via son avocat, a lancé un nouvel appel à témoins. Ça veut dire que sur des affaires aussi vieilles, un nouvel appel à témoins, ça peut déclencher des choses différentes, ça peut réenclencher des choses mentales.
Oui, parce que à la fois la mémoire et la psychologie humaine enfouissent certains souvenirs. Et toute la manière de procéder, c'est les faire ressortir sans les dénaturer. Donc c'est pour ça que les techniques, quand on pense au département des sciences du comportement qui est au pôle judiciaire de la gendarmerie, c'est arriver à faire sortir ses souvenirs la manière la plus linéaire possible, la moins transformée, et tout d'un coup, bien, on s'aperçoit qu'on entend certaines choses que l'on n'avait pas entendues la première fois.
C'est mettre une forme de nouvelle enquête, vous allez me compléter mieux que moi, mais qui va commencer, parce que j'imagine que la famille maintenant de Ginette a un nom, un visage sur celui qui a tué Ginette Nem. J'imagine qu'elle veut plus de réponses, elle veut des mobiles, elle veut comprendre, elle veut savoir ce qui s'est passé.
C'est exactement ça, c'est tout le travail de l'instruction, parce que vous parliez d'un nom, d'un visage, il n'y en a pas pour l'instant, on sait qu'il y a quelqu'un.
Vous n'avez pas eu le visage hein?
Non. On sait qu'il y a quelqu'un et on va tenter d'obtenir des réponses. Le fait effectivement que le mis en examen ait reconnu les faits, c'est ce que l'on a appris par le parquet de Nanterre, c'est déjà un vrai soulagement pour la famille, parce que quand 25 ans après, vous êtes obligé de vous battre également pour essayer de démontrer la culpabilité, alors que vous avez des éléments tangibles scientifiques, là, on n'est pas dans ce cadre-là, ça peut être un peu moins compliqué, même si ça va être une épreuve, mais voilà, en tous les cas, connaître les raisons pourquoi cette personne qui n'avait pas d'ennemis, qui n'avait pas de... Il y a toujours de l'injustice, mais là, il y a de l'incompréhension qui s'est rajoutée.
Alors, la famille satisfait, soulagée, mais à aucun moment on vous dit, du côté donc de monsieur, des filles, comment se fait-il que ça ait traîné comme ça alors qu'il suffisait de montrer des preuves photographiques ?
Vous avez plusieurs types de victimes dans ce genre d'affaires. Vous avez les victimes qui veulent attaquer constamment, qui vont engager des détectives privés pour essayer d'aider les enquêteurs, les magistrats. Et puis vous avez ceux qui subissent un petit peu. C'était le cas un peu de la famille de Madame Nem, où on fait confiance à la justice, on se dit, il y a quand même des magistrats professionnels.
On attend
et on se dit, c'est la faute à pas de chance. Ben, ce type-là a eu de la chance, s'en est tiré. Il est trop tôt pour imaginer s'il y a eu des manquements ou s'il n'y a pas eu de manquements. C'est la nouvelle instruction qui permettra de le dire. Ils sont pas actuellement dans cet état d'esprit. C'est plus du soulagement que le sentiment de gâchis qui pourrait être. Ça changera peut-être. Mais en tous les cas, au moment où je vous parle, on a pas assez d'éléments pour.
Au départ, c'est la PJ Toulon, police judiciaire Toulon.
Tout à fait.
Sur ce dossier, je dis pas qu'il y a manquement. Je dis que parfois, il y a pas de chance dans une enquête. Il faut aussi avoir du bol. Et il y a peut-être pas de bol dans ce dossier-là. Et ensuite, c'est l'OCRVP, l'Office central pour la répression des violences aux personnes, qui va continuer.
Oui.
Est-ce que dans ce cas-là, on revoit comme les gars, les collègues de l'APJ Dijon? Est-ce qu'ils revoient leurs collègues de l'APJ Dijon? Comment ça se passe? De l'APJ Toulon?
Ah, ça, c'est pas forcément si on veut pas rester enfermé dans la même vision des choses. Qui leur parle dans un deuxième temps, oui, mais dans un premier temps, il faut que le regard soit neuf. et pas biaisé d'entrée par mais moi j'ai ce détail qui me chipote depuis le début, et puis on va se focaliser là-dessus et on va oublier tout le reste à côté. Donc maintenant ils ont dû certainement échanger sur l'ensemble du dossier, mais au début il y a un regard neuf et il faut pas que ça soit
contaminé.
Oui.
Ce qui a peut-être été déterminant dans cette enquête, c'est ce fameux appel à témoins qui a été lancé. Général, vous nous en disiez un mot, parce que c'est une forme assez différente. On connaît les appels à témoins avec le numéro de téléphone, la photo de la personne disparue ou qui a été assassinée, et pas plus. Là, on va revoir les images, on les a vues circuler pendant qu'on discutait. Cet appel à témoins, il est mis en scène par des enquêteurs qui parlent, qui racontent, il y a des schémas. On refait très précisément le trajet qui a été emprunté, de ce qu'on en sait. C'est exactement ce qu'on est en train de voir là. Ça, c'est une nouvelle technique qui est utile et qui fonctionne.
Oui, parce qu'il faut des déclencheurs. Faire un appel à témoins simple, en disant, voilà, il y a eu telle affaire, tel crime à tel endroit. Si vous étiez dans les parages à ce moment-là, votre témoignage sera le bienvenu. On ne sait pas à quoi ancrer le souvenir. En revanche, on remontre les lieux, on remonte les parcours, on remontre quel temps il faisait, etc., etc. Eh bien, on essaime des ancreurs de mémoire qui tout d'un coup vont faire réémerger un souvenir beaucoup plus précis en disant, mais après tout, mais oui, mais j'étais là-bas, j'ai vu ça, et ce que j'ai vu, c'était de telle manière, etc. Donc, c'est pour ça que plus on présente les faits de manière objective, dans le milieu, objectivement, sans influence vers un témoignage ou un autre, on a mis tous les marqueurs nécessaires pour aller chercher le souvenir qui est ancré au fond de sa mémoire.
Oui, c'est un tout nouveau dispositif, cette capsule vidéo, qui est un dispositif qui s'appelle Enquête d'indices, ouais, qui a été lancé en avril 2024 par le procureur de la République de Nanterre. Et la capsule qu'on est en train de voir sur BFM TV, eh bien, elle a été mise en ligne assez récemment, en juin 2024. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre cette capsule vidéo et la résolution, entre guillemets, de ce cold case? Est-ce qu'il y a une personne qui a assisté, qui a vu ces images et qui a eu un flash dans sa tête et qui s'est dit, mais je me souviens de cet homme-là, je vais aller témoigner. Mais c'est que ce dispositif a été mis en place assez récemment et on aimerait savoir aujourd'hui vraiment s'il y a la résolution de ce cold case, un lien avec cette capsule vidéo.
Ça vient d'où ça? On a repris ça aux Américains, aux Canadiens, vous savez, non?
Au Royaume-Uni, c'est utilisé depuis quelques temps, beaucoup plus longtemps que nous, mais c'est vrai que les pays étrangers ont pour l'habitude d'utiliser ce genre de dispositif qui a fait ses preuves à l'étranger. Et c'est peut-être pour cette raison-là que le procureur de Nanterre s'est dit en avril 2024, alors, on y va, on fait ce dispositif, et parce que ça marche à l'étranger, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous.
Maître, d'un mot pour conclure, est-ce que vous pensiez, quand on accompagne une famille aussi longtemps dans le combat judiciaire, on sait combien c'est dur, combien c'est long, est-ce que vous pensiez qu'un jour, vous pourriez avoir le coupable?
Sincèrement, non. Non. On y croit les premières années, même qui suivent une ordonnance de non-lieu. Quand il se passe tant de temps, on reprend un petit peu d'espoir lorsqu'on est avisé en 2023 que le Paul Cold Case reprend l'affaire, mais on est obligé d'être mesuré également vis-à-vis de nos clients parce que c'est un espoir. Il n'y a rien de pire que d'un espoir qui n'aboutit pas. Donc, je n'y croyais pas trop, et voire pas du tout. Et puis, je suis heureux de m'être trompé.
Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous trois. On continuera évidemment à suivre l'enquête qui démarre désormais pour essayer de comprendre ce qui est arrivé précisément à Ginette Nem. Merci d'être venu sur le plateau. D'affaires suivantes, tout de suite, l'invité de la semaine. Les procès d'assises sont ceux où tout peut arriver. C'est là que sont jugées les affaires les plus graves et bien souvent le sort d'un criminel bascule durant ces procès. Pendant 25 ans, Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire, a suivi pour le Figaro les plus grands procès d'assises, de l'affaire Fourniret à l'affaire Troadec. Il raconte dans un livre qui vient de paraître 10 grands procès qui l'ont marqué. Service après crime, c'est aux éditions du Rocher. Il sera notre invité dans un instant pour revenir notamment sur l'un des procès auxquels il a assisté, le procès aux assises de Jacques Viguier. C'était en mars 2010. Elisa Trana.
Le 27 février 2000, Suzanne Viguier disparaît de son domicile toulousain, sans voiture, sans sac à main et sans ses lunettes. Son mari Jacques, professeur de droit infidèle, est accusé de l'avoir tuée et d'avoir fait disparaître son corps. Soutenu par ses enfants, il a toujours clamé son innocence. Acquitté en 2009 devant la cour d'assises de Haute-Garonne, il comparaît l'année suivante en appel à Albi, dans le Tarn. Sur le banc des accusés, Jacques Viguier joue les 20 prochaines années de sa vie. Face à lui, les parties civiles plaident le crime conjugal.
pense, arriver à convaincre les jurés cette fois-ci qu'il s'agit incontestablement d'une dispute conjugale parce que Suzy Viguier veut divorcer.
D'un côté, un mari qui s'est débarrassé trop vite du matelas sur lequel dormait sa femme et ne parvient pas à expliquer les gouttelettes de sang retrouvées chez lui. De l'autre, une victime qui avait un amant à l'attitude énigmatique. Puisqu'il n'y a pas de cadavre, y a-t-il seulement eu crime ? S'interroge la défense.
Il n'y a aucune preuve dans cette affaire, aucun élément accablant. Il n'y a que des suppositions, des convictions policières. C'est le concours l'épine des hypothèses.
Au terme de 3 semaines de débat, l'accusation réclame 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Jacques Viguier se lève et prend la parole une dernière fois.
Je vous supplie de me rendre ma dignité. J'espère que ces 3 semaines d'audience si douloureuses pour moi vous auront apporté la preuve de mon innocence.
Ce 20 mars 2010, les jurés se sont fiés à leur intime conviction. Jacques Viguier est acquitté une seconde fois.
Les jurés, certainement au terme d'un long débat, en leur âme et conscience, ont estimé qu'ils ne pouvaient pas avoir de certitude. Vox populi, vox dei.
Acquitté sur le doute, diront certains protagonistes de l'affaire.
Faire Viguier, le procès aux assises, c'est repris dans le livre de Stéphane Durand-Soufflant. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chroniqueur judiciaire au Figaro. On vous lit évidemment régulièrement, auteur donc de Service après crime. 25 ans de procès d'assises. Vous revenez sur de nombreux procès que vous avez couverts, que vous avez suivis. Ça nous rappelle ô combien les assises sont le lieu où tout peut se passer, tout peut arriver. On va reparler un peu de l'affaire Viguier, mais peut-être d'abord, comment vous vous définiriez les assises ?
Les assises, je compare souvent ça à une espèce de sous-marin où on est enfermé et on s'enfonce dans un dossier, dans une affaire souvent assez ahurissante. Et quand on ressort, une vérité judiciaire ressort avec nous.
Mm-hmm. Il y a un procès qui vous a marqué plus qu'un autre. Difficile de faire des choix, j'imagine, pour un livre.
Ouais, c'est très difficile parce que chaque procès a sa coloration, son ambiance. Il y en a des très durs, par exemple le procès de Fourniret, et des extraordinaires, comme par exemple le procès, surtout le procès en appel de Jacques Viguier, avec un coup de théâtre, ouais, comme on en voit dans tous les films à la télévision, mais comme on en voit rarement dans les vraies cours d'assises.
Vous allez nous le raconter, je pense que vous faites référence à la babysitter.
Exactement.
Nous raconte ça. Racontez-nous le témoignage de la babysitter, ça illustre parfaitement ce qui peut se passer dans une cour d'assises.
Mais c'est un témoignage qui n'intéresse a priori personne, qu'on avait entendu en première instance. Voilà, c'est la babysitter des enfants. Viguier, c'est une femme qui n'a rien d'intéressant à dire. Sauf que, entre le premier et le deuxième procès, la défense a eu accès à des heures et des heures d'écoutes téléphoniques qui n'avaient pas été exploitées jusqu'à présent. Et la défense, Éric Dupond-Moretti, à l'époque avocat, a trouvé un micro-indice qui laisse entendre, c'est un peu compliqué, ouais, que la babysitter est rentrée, parce qu'elle y était déjà allée plusieurs fois, dans la maison des Viguier, accompagnée de l'amant de Suzy Viguier, la disparue, un dénommé Durandet, et que cette intrusion dans la maison n'avait jamais été révélée. Et tout l'art de l'avocat de la défense, l'immense avocat qu'a été Éric Dupond-Moretti, c'est de faire craquer cette femme qui, depuis des années, avait cadenassé un témoignage, avec d'ailleurs le renfort de Monsieur Durandet, et à la barre, d'un coup, elle craque. Et elle avoue, oui, je suis entré dans la maison. Et ça ouvre à ce moment-là absolument un vertige, parce que qu'ont-ils fait dans la maison ? Et notamment, un indice compromettant aurait-il pu être disposé pour accabler Jacques Viguier.
Vous dites dans l'avant-propos de votre livre, juger, on revient au sous-marin, c'est admettre que la part ultime de la vérité reste enfermée dans un mystère impénétrable.
Oui, parce que les criminels, vous savez, il y a la tarte à la crème, juger c'est comprendre. Le criminel, on ne le comprend jamais vraiment. C'est-à-dire que on peut s'approcher, alors parfois on peut s'approcher assez près d'un criminel, parce que il y a des criminels comme vous et moi qui un jour, pour une raison absurde, basculent dans quelque chose qui est idiot, c'est de commettre un crime. Et sauf que eux, ils connaissent quelque chose que nous on ne connaît pas. C'est justement ce passage à l'acte. Et donc la vérité, on s'en approche, on peut comprendre une motivation, on peut comprendre tu es pour de l'argent, tu es par jalousie. Mais en même temps, pourquoi certains vont passer à l'acte et d'autres jamais, Dieu soit loué, ça on comprend pas. Et il y a toujours quelque chose, il faut admettre qu'il y a toujours une petite part de frustration dans l'exercice du procès.
Le procès d'assises, ce sont des basculements, des retournements, on en parlait avec l'affaire Viguier, ce sont aussi des moments d'intensité très particuliers. Vous avez suivi le procès Fourniret, vous le racontez longuement. Il y a cette scène qui, moi, m'a marqué en la relisant. Marie-Jeanne Laville, qui a eu sa petite-fille, Isabelle, tuée par Fourniret, dans des conditions atroces, et qui va prendre la parole, et qui va s'adresser à Fourniret, et qui aura cette phrase terrible, « Vous êtes laid de l'intérieur ». Vous nous racontez ce moment d'une intensité quand même très très forte.
Alors oui, alors le procès Fourniret, pour le coup, c'est vraiment un procès exceptionnel. D'abord, par l'horreur des crimes et de la personnalité des accusés. Le couple Fourniret, sachant que Michel Fourniret, évidemment, est le personnage qui concentre toute l'attention, puisque c'est lui le criminel, c'est lui qui a perpétré vraiment les crimes. Et cet homme met tout le monde extrêmement mal à l'aise, parce qu'il est d'une perversité, mais inimaginable. Et donc, lui, il est très content, il jouit du malaise qu'il crée, c'est son mode de fonctionnement. Entre parenthèses, c'est le procès, je pense, le plus dur que j'ai jamais couvert. J'ai mis plus d'un mois à m'en remettre. Ouais, tellement c'était dur. Et donc, dans l'épisode que vous évoquez, c'est très difficile dans une cour d'assises de laisser une partie civile s'adresser à l'accusé. Parce que ça va souvent déraper dans quelque chose, soit un torrent de larmes, soit des injures. Enfin, c'est très compliqué. Et là, une des particularités de ce procès Fourniret, c'est que les victimes pouvaient faire ça. Et quand elle dit à cette Madame Laville, quand elle dit « vous êtes laid de l'intérieur », en fait, ça provoque une espèce de sidération dans l'auditoire, parce que c'est vrai, ouais. Parce qu'elle a trouvé des mots que nous-mêmes, on cherchait parfois. Et c'est vrai qu'avec Michel Fourniret, tout était affreux. Et c'était affreux quand il riait, parce qu'il y a eu des moments dans les procès d'assises, dans les grands procès d'assises, il y a des espèces de constantes qu'on connaît bien. Il y a, en général, le témoin sourd, qui n'entend rien, donc qui répond à côté, et parfois en même temps, un éclat de rire. Il y a un moment où, voilà. Et Michel Fourniret a ri. Et c'était affreux. Parce que vous vous dites, mais je ris aussi, je ris avec ce type. Ouais. Et c'était aussi très, très affreux quand il pleurait, parce qu'il pleurait beaucoup sur lui-même, essentiellement. C'était des moments très laids. Et madame Laville a résumé ça en une phrase.
Fourniret, Guy Georges, le procès Pellicot. Vous avez dit, j'ai mis un mois à me remettre du procès Fourniret. On a des journalistes de chez nous qui sont allés suivre le procès Pellicot et qui ont eu des femmes qui ont beaucoup de mal aujourd'hui à s'en remettre. Comment faites-vous ? Moi, on me pose la question parfois, parce que je vis comme vous dans le crime depuis tellement longtemps. Vous allez voir quelqu'un, qu'est-ce que vous faites, vous ?
Alors d'abord, c'est un métier, donc on a forcément une forme de distanciation. Alors, on vit avec ça et on gère. Alors, le chroniqueur judiciaire en presse quotidienne, il évacue, quand il envoie son article tous les soirs, il évacue déjà une partie du stress. Après, c'est une histoire, truc personnel. Chacun gère ça comme il veut. Mais on a besoin de souffler. Parfois, on a besoin de boire un verre de bon vin. Et puis, on retrouve sa famille quand on rentre à la maison. Tout ça, ça fait du bien. Mais c'est vrai que c'est une fois, j'avais parlé avec un psy qui m'avait parlé d'un bombardement traumatique. Et c'est vrai qu'on reçoit énormément de choses. Et surtout, ce qui est très particulier et qui est difficilement racontable, mais c'est que beaucoup de criminels sont des gens ordinaires. On laisse de côté les tueurs en série, les terroristes, éventuellement les professionnels du crime qui peuvent être des tueurs à gages, des choses comme ça. Mais l'essentiel des affaires que j'ai suivies, c'est des gens qui sont insérés dans la société et qui un jour commettent. Et ça, c'est très dur.
Service après crime, c'est passionnant de se replonger dans tous ces grands procès, de se replonger comme vous l'avez fait là, et on est totalement dedans. C'est aux éditions du Rocher, 25 ans de procès d'assises. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Souffrant d'aller sur le plateau. D'affaires suivantes avec Dominique. Évidemment, on embrasse Julien qui nous a accompagnés ces derniers mois. Merci
Julien
pour
Rizzo,
ton travail. On
souhaite
le meilleur, Julien. Et tu es parfait.
Salut,
tu es très bon. On vous donne rendez-vous dimanche prochain à 13h avec Dominique. Bonne semaine.
Affaire suivante sur BFM Radio.